Je passerai à un tout autre domaine que celui des exégèses et de leur subtilité, d'ailleurs, auquel j'ai été sensible, rassurez-vous, à ce monde des réalités immédiates dont il a été parlé, même si l'immédiateté sera plutôt celui du XIXe siècle, étant sensible à ce que j'ai entendu de ces deux premières conférences, qui traversent aussi des questionnements que se posent les personnes dont je vous parlerai. Pourquoi demander le nom, par exemple? On verra ça dans une des apparitions. Et aussi à ce que pourraient être ces voyantes dont je vous parlerai, qui seraient d'une certaine façon des réveils des dormants. Même aussi des questions du secret dont il sera question. Alors, dernière remarque initiale, j'avais prévu une chronologie pour vous aider quelque peu, parce que je jonglerai avec des dates et des situations, mais cela n'a pas été possible. Pour introduire très très brièvement une présentation sur les apparitions mariales en France au XIXe siècle, comme vision privée et son appropriation publique, j'avais pensé faire allusion au moment où Louis Massignon, à qui Henri Cormin a succédé, à l'aube de sa vie mouvementée déjà, le 24 décembre 1911, s'aventura avec des chaussures et des habits de ville dans la neige et le froid sur les hauteurs de la Salette, qui était quand même à 1800 mètres, et il faisait peut-être un peu plus froid qu'en ce moment, je ne sais pas. Et c'était, nous dira-t-il ensuite, et en y restant quelques jours, comme une nécessité vitale pour lui. Or, la Salette était justement le lieu d'une de ces apparitions dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je ferai selon trois moments, si vous voulez. D'abord, présenter les principales apparitions, les quatre principales à quelles je me référerai. Ensuite, expliciter le rapport entre le privé et le public que celle-ci implique. Et enfin, réfléchir un peu autrement à partir d'une perspective sociologique, ou en tout cas de type sociologique, entre mouvement attestataire et mouvement contestataire. Mais pour commencer, je voudrais y introduire en partant en quelque sorte un saut un peu large de l'évangile de Luc aux apparitions mariales. L'évangéliste Luc, dans le Nouveau Testament, est un auteur friand d'apparitions, de celle de Zacharie, auquel un ange du Seigneur annonce une naissance tardive, celle de Jean-Baptiste, à l'ange qui annonce au berger la naissance miraculeuse de Jésus, sans oublier l'ange Gabriel, qui délivre à Marie le message que l'on sait. Et une fois Jésus mort, les apparitions reprennent aux saintes femmes qui viennent le visiter au tombeau, aux apôtres qui le prennent d'abord pour un spectre, et aussi, plus connu, aux deux disciples déboussolés avec lesquels il chemine. Ce qui n'est pas sans intérêt, c'est que la tradition retiendra une apparition qui n'est pas dans les évangiles et qui sera à sa mère. Cet ajout s'inscrit dans ce qu'on appellera plus tard une théologie de la convenance qui aboutira, de manière évidemment assez lointaine, à la définition de l'Immaculée Conception en 1854 et de l'Assomption en 1950, délimitant le temps d'une mariophanie et d'une mariologie triomphante dans lequel nos apparitions s'insèrent parfaitement. Dans l'ouvrage de référence de Joachim Boufflet et Philippe Boutry sur les apparitions de la Vierge, auxquelles je me référerai une fois ou l'autre, à la question légitime de la première fois, quand y a-t-il eu une première apparition de Marie, la réponse est curieusement laissée en suspens. Les auteurs mettent en avant comme préalable la distinction entre vision et apparition. La vision se définissant comme une révélation particulière privée qui ne concerne que le récipiendaire, tandis que l'apparition est une révélation particulière aussi, mais publique dans sa manifestation et ses effets. Et c'est de cela que je parlerai. Ces distinctions éclairent aussi la perspective historique. Au Moyen Âge, on parle indistinctement de vision et d'apparition pour désigner toute intervention de Jésus, de la Vierge ou des saints. Il faudra attendre l'époque moderne, c'est-à-dire le XVIe siècle et le triomphe du modèle tridentin, pour voir les premières apparitions mariales et leurs effets publics, l'ouverture de sanctuaires nouveaux, ce qui n'empêche pas que le XIXe siècle introduira une grande mutation et le XXe aussi par la mondialisation, notamment des apparitions. Si donc on se transporte dans ce XIXe siècle, il convient d'y introduire en présentant une mariophanie qui prend des formes assez diverses. Et je retiendrai deux précisément. D'abord, le XIXe siècle voit la renaissance d'une pratique pluriséculaire de l'ex-voto peint, petit tableau de petite dimension, en terre provençale particulièrement, mais aussi en d'autres lieux. Mais elle a été bien étudiée là. Dès le XVIe siècle, le bénéficiaire de la protection, reçu se faisait représenter avec la Vierge du pèlerinage où il déposait son ex-voto en guise de remerciement. Or, la pratique reprend à la hausse au XIXe siècle, mais le visuel de l'ex-voto est modifié. La place laissée à la vision céleste se réduit, elle est cantonnée dans un coin seulement de l'ex-voto, tandis que le sujet prend de plus en plus de place, présenté dans le quotidien dangereux, maladie ou naufrage, dont la Vierge l'a protégé. Toute différente est l'émergence en France, à partir de 1852, de couronnements publics de statues anciennes de pèlerinage Mario, lesquels pèlerinages avaient été mis à mal par la Révolution, et ces couronnements se font avec une grande solennité de foule de plus en plus nombreuse. Ce phénomène, pour ses débuts, 1850-1880, correspond exactement au temps des apparitions que je présenterai. Ces couronnements, qui se font avec l'accord de la papauté, sont relancés par la proclamation en 1854 de l'Immaculée Conception, le premier dogme marial qui est défini par le pape lui-même. Ces couronnements aussi, et c'est à cela qu'ils nous intéressent, concernent des sanctuaires eux-mêmes fondés sur des apparitions de l'époque précédente. Et enfin, ces couronnements s'accompagnent souvent d'un phénomène qui est assez surprenant puisqu'il va presque à l'encontre, c'est l'introduction de vierges colossales, celle du puits, si vous avez été au puits, en est le principal exemple, qui sont implantées au sommet des édifices ou sur des hauteurs dominant la ville. Si bien qu'on a là une sorte de prolifération et un peu compliquée à gérer, entre les ex-voto plus réalistes et les couronnements multipliés, on peut au moins identifier le passage de pratiques individuelles dans des cadres collectifs, puisque les ex-voto sont rassemblés dans les chapelles où viennent les pèlerins, à une mobilisation des foules autour des sanctuaires anciens et bientôt nouveaux, car les apparitions vont bientôt être aussi servir à ces usages. J'entre donc plus directement dans le vif de mon sujet en rappelant d'abord la difficulté à identifier les apparitions mariales du XIXe siècle, même si on se limite à la seule France. Quel critère en effet retenir ? La notoriété, mais comment la définir ? La légitimité, effectivement, si les apparitions ne prennent pas d'importance en dehors d'une autorisation épiscopale, il est possible de contourner cette obligation et surtout, toute autorisation ne fait pas du succès. Je retiendrai donc quatre apparitions importantes, la rue du Bac, 1830, la Salette, 1846, Lourdes, 1858 et Pontmain, 1871. En rappelant simplement que la première ne fut pas directement approuvée. Or, on compte pour le XIXe siècle au moins une vingtaine d'apparitions identifiables, dont 13 sont postérieures à 1871 et dont aucune de ces dernières n'a été autorisée. Et ce premier pointage montre le décalage entre le temps bref je dirais, des apparitions légitimes ou légitimées, 1846-71, est celui marqué d'une période qui est délimitée par la défaite de 1870 en France et par la perte des États pontificaux. Avec le retour d'une apocalyptique éclatée, mais aussi peut-être avec un phénomène de banalisation des visions qui explique que l'on n'a pas voulu les reconnaître. J'en viens donc maintenant à délimiter, à présenter plus exactement ces quatre grandes apparitions entre 1830 et 1871. Elles s'inscrivent chacune à sa manière, d'abord, dans une conjoncture nationale spécifique. Elles ne sont pas, si je puis dire, en l'air, une expression qui s'imposerait. Pour la rue du Bac, l'apparition précède et accompagne la révolution de 1830, elle y est liée en quelque sorte, et surtout sa continuation, son effet, à la grande et à la dernière grande épidémie de choléra qui toucha la France, Paris particulièrement. La Salette répercute en 1846 une des dernières crises agricoles qui, traversant l'Europe, je cite simplement pour mémoire la disette meurtrière en Irlande qui fit baisser la population en 10 ans de 3 millions de personnes, 1 million de morts et 2 millions qui partent à l'étranger. Touche aussi fortement la France et elle se fait connaître dans les temps troublés de la Seconde République qui aboutissent à le coup d'État du 2 décembre 51. Lourdes se déploie en pleine affaire romaine alors que Napoléon III, très favorable jusque-là aux catholiques, voulant aider l'unité italienne, va évidemment les mécontenter puisque le royaume du pape y laissera, si je puis dire, sa peau. Enfin, pour moi, la conséquence directe de la guerre de 70, l'apparition a lieu alors que l'armée allemande progresse dangereusement vers l'ouest puisque pour moi se trouve du côté de Laval, pas loin du Mont-Saint-Michel. Chacune de ces apparitions a sa singularité. La rue du Bac, à Paris, est en fait le siège de la principale congrégation hospitalière qui a été fondée par Saint-Vincent de Paul, les Filles de la Charité, sous le contrôle des Pères Lazaristes. Une des novices, Catherine Labouret, 24 ans, une paysanne mal alphabétisée et sur le tard, participe, comme les autres, à la grande procession parisienne d'avril 1830 de la translation des reliques de Saint-Vincent de Paul dans la maison des Lazaristes qui est proche rue de Sèvres. Ils sont toujours actuellement. Et elle va entrer dans une période de 5 mois de vision, vision du cœur de Vincent de Paul, vision de la Vierge Marie, entre 3 et 5 selon les récits, sans compter une vision un peu plus habituelle du Christ. Parmi ces visions, la principale est celle de la Vierge, l'appelant de nuit à venir à la chapelle, ou plus exactement, c'est un enfant qui l'appelle. Enfin bon, je vais au plus rapide. L'appelant donc de nuit à venir à la chapelle, puis lui donnant un modèle de médaille à son effigie pour qu'elle soit répandue auprès des fidèles. Ce qui fut fait, mais seulement 2 ans plus tard, en pleine épidémie de choléra, comme je le rappelais tout à l'heure. La médaille répandue par millions, on est début de société de consommation, mais d'une certaine consommation, fut vite déclarée miraculeuse. Mais il faut attendre encore 2 ans, 1834, pour qu'une brochure paraisse unissant recueil de miracles et récit de l'apparition fondatrice, sans que l'on donne le nom de la personne qui en fut le bénéficiaire. La bénéficiaire, pardon. La Salette, 1846, dans la moyenne montagne alpine, inaugure un modèle nouveau, vision unique, en plein air, par 2 témoins, de jeunes bergers, et des récits immédiats qui sont multipliés dans la presse, tant locale que nationale. La mise en place rapide d'une commission d'enquête diocésaine, aboutissant en 1851 à la reconnaissance de l'apparition, puis l'érection d'une chapelle, avec une communauté de prêtres chargée du pèlerinage, nous sommes encore dans les pratiques traditionnelles, mais l'apparition est originale d'abord par la représentation de la Vierge, une Vierge assise, une Vierge qui pleure. Il y aura tout un débat sur lequel je n'ai pas trop assisté, des théologiens en disant « mais c'est pas possible, quelqu'un qui vit dans la béatitude ne peut pas pleurer ». Voilà, tout un problème, mais je laisse de côté. Donc, représentation d'une vierge qui pleure, est originale aussi par la longue mise en garde qu'elle contient. La Vierge est très bavarde, là. Elle profère des menaces à cause des pratiques de la religion qui ne sont pas observées. Par le débat public immédiat sur la réalité de la voyance, qui divise aussi bien les milieux catholiques que les milieux anticléricaux. Et plus encore par l'existence d'un message secret qui sera discrètement, si je puis dire, communiqué à Rome en 1851. Plus encore par la place prise par la voyante, Mélanie Calva, qui va attirer toute la lumière sur elle et se transformer au fil des ans en prophétesse du message caché. Lourdes repose, au contraire, sur une voyante unique, Bernadette Soubirou. Figure immédiatement stable et chaleureuse, sorte de Jeanne d'Arc pyrénéenne, si l'on veut, par la capacité qu'elle a à tenir tête à ses juges, tant civils que religieux, mais rassurez-vous, elle ne mourra pas sur le bûcher. Elle est toutefois d'abord perçue comme une marginale qui parle patois, qui n'a pas encore, à 14 ans, fait sa communion. C'est la fille d'un meunier dans la misère qui vit du ramassage de bois. On parlera de chapardage sur les bords du Gave, la rivière locale, où le 11 février 1858, elle fait une rencontre décisive. La nouveauté de la vision qu'elle a provient d'abord du nombre élevé des apparitions qui se succèdent, pas moins de 18, espacées sur 6 mois, mais concentrées pour l'essentiel, 12 apparitions en 2 semaines, de février-mars, sur un lieu unique, le Gave de Pau, avec la grotte qui le domine. Elle provient aussi de la répétition, donc de ses visites journalières à la grotte, en présence d'un public de plus en plus nombreux, mais entremêlée aussi d'immédiats interrogatoires de la police qui se demande à qui elle a affaire et du clergé qui se demande la même chose, mais pour d'autres raisons. Enfin, par l'identification de celle-là même qui semblait à Bernadette une jeune fille de petite taille et qui, pressée de questions, se désigne comme l'Immaculée Conception. Il s'ensuit une séquence classique, source miraculeuse, miracle donc, source plutôt miracle, miracle et reconnaissance de l'apparition par l'évêque, érection d'une église, pèlerinage et on sait lequel. La normalisation s'opère encore par la mise à l'abri de la voyante dans la maison mère des Sœurs de la Charité de Nevers, une autre congrégation hospitalière qui était présente à Lourdes, et par la nationalisation du pèlerinage après 1870. J'avais toujours pensé que c'était un peu l'équivalent de ce que Lénine disait. Vous savez, Lénine, c'est les soviets, et puis je ne sais plus trop quoi, l'électrification et les soviets, c'était ça, non?
Plus l'électricité.
Voilà, c'est ça. Et bien là, Lourdes, c'est un peu la même chose, c'est le chemin de fer et la presse catholique. Bon. Pontmain fait, à côté du rapide succès de Lourdes, pâle figure, c'est une commune d'abord rurale de 700 habitants, en pleine zone de bocage et du diocèse de Laval. Le 17 janvier 1871, plusieurs enfants voient une belle dame qui leur apparaît au-dessus de la grange, une famille de paysans. La nouveauté, outre le contexte de la guerre, provient du caractère collectif et sélectif. Et les visionnaires sont des enfants de 6-7 enfants, on ne sait pas très bien, entre 6 et 12 ans. Et la réalité d'une vision qui, en se prolongeant sur plusieurs heures, entraîne la mobilisation des voisins, du curé, des sœurs institutrices, qui mettent immédiatement les fidèles en prière. Et les enfants racontent comme en continu, comme une sorte de film qui se déroule lentement, ce qu'ils voient, une dame d'une grande beauté habillée de bleu et tenant un crucifix rouge, et ils épellent, comme à l'école, le contenu d'une banderole qui se déroule progressivement, où l'on peut lire « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et ils scrutent aussi le visage mobile de la Vierge qui passe de la joie à la tristesse, ainsi que le décor changeant d'étoiles et de flammes. Le pèlerinage est spontané, d'autant plus que la cessation immédiate ou rapide des hostilités paraît confirmer la promesse entendue. Les voyants sont majoritairement des garçons, tous survivants deviendront prêtres ou religieuses, La vision s'exprime dans un français que les enfants ont appris à l'école, mais ils parlent spontanément patois quand on les interroge. On pourrait parler ici d'une France des territoires, je ne parle pas des gilets jaunes, plus précisément des paroisses rurales, alors dominantes, ou des petites villes, où les voyantes, sauf à Pontmain, sont en marge d'une francisation qui se fait par l'école, voire même d'une catéchisation à laquelle ils accèdent difficilement, l'âge tardif de la communion solennelle pour les voyantes de Lourdes et de la Salette. L'âge, en effet, les distingue. Si Catherine Labouret a 24 ans, les voyantes de la Salette, 14 et 11, Bernadette, 14, et les visionnaires de Pontmain, entre 6 et 12. Ces enfants apparaissent paradoxalement comme des médiums qui s'imposent à une société en pleine modernisation, alors qu'à la même époque, le beau travail de Cuchel l'a montré, les élites adultes cherchent frénétiquement par le spiritisme à établir un autre type de communication avec les morts. Ce tableau brossé, nécessairement rapidement, je voudrais y revenir sur trois d'entre elles, les trois principales, en essayant de revoir mieux le passage ou le rapport qu'il y a entre le privé et le public. La médaille miraculeuse d'abord, il faut rappeler la séquence vision en cascade d'une novice, juillet-novembre 1830, sélection par son confesseur, le père Aladel, d'un modèle de médaille à partir d'une de ses visions, parce qu'elle en a eu plusieurs, sur ce que pourraient être des représentations de la Vierge, en 1832, puis en 1834, la bref récit de l'apparition fondatrice sans désigner celle-ci. Et on assiste alors à un phénomène de tardive fixation par écrit, par la voyante elle-même, certes elle est sollicitée, dans un français qui est le plus souvent phonétique, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, comme si Catherine Labouret entendait faire connaître une vérité dont elle ne voulait pas être dépossédée. Je m'en tiendrai comme exemple à la transcription d'une vision de novembre 1830 qui n'a pas été retenue par une représentation, ni médaille, ni sculpture, même si elle le sera plus tard. La voyante insiste... où la novice, pardon, voit la Vierge debout, tenant une boule dans ses mains. Et elle est en plus sur la terre qui est représentée par une sorte d'esquisse de globe. Alors, on comprend que les représentants se sont demandé si c'était... ceux qui voulaient transcrire cela se sont demandé si c'était bien lisible. La voyante insiste d'abord sur les détails du vêtement. On est là peut-être dans un rapport de femme à femme qui... pour moi, en tout cas, m'échappe un peu. Mais bon. Puis, elle décrit le globe et sa signification. Cette boule que vous voyez représente le monde entier, et particulièrement la France, et chaque personne en particulier. Donc là, on a aussi des macrocosmes et des microcosmes, mais de façon différente. Et elle est fascinée aussi par les mains. Les doigts remplis d'anneaux et de pierres si belles et si précieuses. Les rayons qui en sortent de ces pierres rejaillissent de tous les côtés, ce qui remplissait tout le bas de l'apparition. Elle voit l'apparition comme une sorte de grand tableau, et donc tout le bas est rempli de lumière, et que l'on ne voyait plus ses pieds. Vous ne voyez plus les pieds de l'apparition. Mais le récit est aussi parsemé de brefs retours sur soi qui, pour être très limités, me semble peut-être répondre davantage encore à la réalité de ce qu'est la vision. Ici, je ne sais m'exprimer sur ce que j'ai éprouvé. Et encore, à ce moment où j'étais, où je n'étais pas, je jouissais, je ne sais, sorte de zébrure mystique, absente le plus souvent du récit. L'apparition de la Salette à deux bergers dans les alpages à la fin de l'été 19 septembre 1946 n'est évidemment pas de public, hormis les troupeaux mis en commun, mais qui ne furent pas interrogés. C'est donc par des récits qu'on a connu la réalité. Il provenait de deux sources différentes, celle normale, mais qui a pris son temps, du desservant de la paroisse, qui fait rapport à l'évêque, comme il se devait, et l'autre quasiment immédiate, qui émane du propriétaire du troupeau que gardait Mélanie. Car en fait, il y avait deux troupeaux, et ils se retrouvaient ensemble, parce que c'était plus agréable d'être ensemble que de passer sa journée tout seul. Ça se comprend. Avec l'aide du patron de Maximin, il établit Donc, ce monsieur Prat, il s'appelait Prat en plus, on parlera du rapport Prat, P-R-A, il établit le premier récit qui orienta toute interprétation ultérieure de la vision. Le titre qu'il lui a donné, « Lettre dictée par la Sainte Vierge à deux enfants », va se polariser sur les paroles entendues et du coup ignore toute contextualisation. On ne rappelle pas comment les enfants étaient montés, où elles étaient, etc. Ainsi que toute réaction des enfants, sinon sur le mode d'un dialogue indirect que la Vierge fait en se mettant à leur niveau. La Vierge, sans s'identifier, évoque « mon peuple » et « mon fils », dont la main est si pesante qu'elle peine à la retenir, puis livre les raisons de cette colère divine. « Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. Et encore, ceux qui mènent les charrettes ne peuvent pas jurer sans y mettre le nom de mon fils au milieu. » Je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression bien connue de jurer comme un charretier. Enfin, elle était connue avant, je ne sais plus. En conséquence, les récoltes sont gâtées, pourries si vous voulez, tant celles de pommes de terre que de blé. Et ce sera de même encore si les fidèles persistent à ne pas revenir aux bonnes pratiques. Réagissant à cette présentation quelque peu, on pourrait dire déjà apocalyptique, les anticléricaux ont immédiatement pointé, mais aussi le grand bollandiste que fut Hippolyte Delahaye en 1928, ont immédiatement pointé donc le décalque que ce récit avait avec des textes anciens qu'on appelait les lettres tombées du ciel, qui étaient des mises en garde pleines de menaces de ce genre, qui paradoxalement se reviennent au premier plan dans la première moitié du XIXe siècle. Évidemment, l'évêque favorable insistera davantage sur la concordance des témoignages, l'incapacité d'invention, le rappel aussi des vérités premières. Philippe Boutry, qui défend la réalité de l'apparition, montre comment celle-ci ne se contente pas de reprendre ses mises en garde et menaces anciennes, mais comment l'apparition les actualise et les inclut dans un dialogue esquissé entre la Vierge et l'enfant, en soulignant la pédagogie utilisée. Vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, je vais vous m'exprimer autrement. C'est vrai que là aussi, on a une Vierge professeure. Et aussi la manière dont la vision passe du patois au français pour mieux se faire entendre. Bref, avec la Salette, s'impose la médiation d'un récit dont se saisissent immédiatement ceux qui sont convaincus, l'évêque, les prêtres, favorables aussi que les fidèles, et les opposants qui, de la même façon que ceux qui le reçoivent, déconstruisent l'argumentaire premier. Le cas Lourdes, sur lequel j'insisterai un peu plus, est différent par le déroulé même de l'apparition, même si, par l'omniprésence du public dans la presse et les conflits qu'il y a dans l'interprétation, il prolonge celui de la Salette. Les 18 visions en public de Bernadette suscitent des rassemblements qui vont, au début de quelques proches, à plusieurs milliers de personnes pour les dernières, dans une ville, il faut le rappeler, qui n'en comptait que 4000. Le comportement de Bernadette est d'abord regardé avec suspicion par ceux qui cherchent dans son attitude le comportement maladif d'une convulsionnaire ou d'une hystérique. Puis, progressivement, le regard change au cours des 2 semaines du rendez-vous quotidien. Certes, le public est sensible aux objets de la voyante, au chapelet qu'elle récite, au cierge qu'elle allume et dont le corps ne ressent pas les brûlures. À ses gestes habituels, l'agenouillement ou insolite, creuser le sol, manger de l'herbe. Mais c'est son visage qui est prioritairement scruté. Ainsi, ce témoin d'une des premières apparitions déclare-t-il qu'elle avait un visage beau, plus beau que tout ce que j'ai vu, ignorant qu'il répète ce que les visionnaires eux-mêmes disent quand on les interroge du visage de la Vierge. Mieux encore, l'observation du visage livre, comme dans un film muet qui force l'expression, les indications aisées à décrypter. Au mouvement de ses lèvres et des muscles de son gosier, il nous fut facile de remarquer qu'elle parlait. Par moments, elle s'arrêtait, comme pour écouter ce que disait sa chère vision, puis elle reprenait. Elle accompagnait parfois le mouvement de ses lèvres par des signes de tête, tantôt négatifs, tantôt affirmatifs. Ces mimiques expressives qu'on songe au mime du bureau, deux décennies plus tôt, imaginé, immortalisé par les enfants du paradis de Carnet, c'était dans les années 1820-1840, plus encore que sa capacité à subir des interrogatoires, joueront, me semble-t-il, un rôle décisif dans la crédibilité que l'on accorde à Bernadette pour asseoir la véracité de l'apparition. D'autant plus que si l'on compare les paroles échangées aux longs et véhémentes avertissements de la Salette ou aux visions à répétition de Catherine Labouret, on est frappé de la banale brièveté des échanges. Cette parole aussi, ce ne sont pas celles du Christ mourant, mais cette parole aussi, voilà ce que Bernadette a noté à la demande du père Cros, l'un de ses premiers historiens, 7 ans après les apparitions, comme la trace d'une histoire qui lui demeure pourtant très présente. « Voulez-vous me faire la grâce de venir me voir pendant 15 jours? Vous irez dire au prêtre de faire bâtir une chapelle? Allez boire à la fontaine et vous y lavez? Vous prierez Dieu pour les pécheurs? Je suis l'Immaculée Conception. Allez manger de cette herbe que vous trouverez là. Je ne vous promets pas de vous faire heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Des injonctions personnelles, immédiates, boire, manger, ou plus générales, prier. Une autre comme messagère, bâtir. La réponse à un questionnement souvent répété sur son identité, Immaculée Conception. Et comme ouverture, une invitation au dialogue, pour 15 jours. Et comme terme, les choses de la vie, le bonheur. On peut interpréter ce dialogue subtil aussi bien sur le mode d'un échange déférent avec une personne qui vous est supérieure que comme les paroles d'un oratorio où nous ne possédons que les thèmes d'une partition envolée. Je voudrais maintenant, pour terminer cette analyse, reprendre, et donc de manière plus, j'allais dire, distanciée, la distinction entre, éclairante me semble-t-il, entre pratique attestataire et pratique protestataire, en appliquant l'une ou l'autre perspective aux faits apparitionnels. D'abord, les modalités de l'apparition, de l'attestation. Je définis l'attestation comme tout ce qui renforce un système de pratique et de croyance en cours de recomposition. On peut dire qu'au lendemain de la Révolution française, le catholicisme est effectivement en voie de recomposition. Certains diront qu'il l'est à partir des années 60 en voie de décomposition, mais c'est un autre problème. De ce point de vue, l'attestation n'est pas seulement le fait des autorités religieuses, elle l'est de manière différente, tant dans le contenu du message véhiculé que dans la réaction des fidèles. Les messages, pour commencer par cela, transmis, malgré leur diversité, contiennent deux éléments stables. Dénonciation ou mise en garde, actualisation d'une présence. La dénonciation est véhémente à la Salette, on y reviendra. Elle est présente à la rue du Bac, où la première vision, elle est reprise encore une deuxième fois, s'ouvre sur une mise en garde contre le relâchement dans les deux familles religieuses de Saint-Vincent de Paul. Bien que cet aspect, on le comprendra aisément, n'ait pas été rendu public. La mise en garde à Lourdes, bien qu'elle soit modérée dans le ton, renvoie à l'humanité pécheresse pour laquelle il faut prier, ce qui est répété à Pontmain en insistant sur l'efficacité de la prière. Quant à l'actualisation d'une présence, elle se manifeste de deux manières différentes, modeste mais immédiate avec la prolifération des médailles miraculeuses à la rue du Bac, plus classique à Lourdes, puisque la source miraculeuse et la demande de chapelle fait partie du contenu même du message. Mais la capacité attestataire provient aussi, me semble-t-il, de la réaction populaire immédiate. En face d'une voyante dont les croyants perçoivent sa capacité d'intercession, ceux-ci apprécient aussitôt sa légitimité par la capacité qu'elle peut avoir, au nom de la Vierge qu'elle représente, à produire du miraculeux. C'est ce qui se passe notamment en 1832. Ces miracles immédiats sont rapidement identifiés aussi à la Salette, à Lourdes, à Pontmain encore. Et pour la rue du Bac, donc, c'est même l'immédiate efficacité miraculaire qui fonde la légitimité de la médaille, et celle-ci, par ricochet, celle de l'apparition qui sera connue plus tard. Ces nouvelles sources de miracles s'inscrivent dans un contexte plus large du XIXe siècle, de demandes de protection ponctuelles dont les ex-voto individuels, qu'ils soient de bois ou de marbre, témoignent largement, et aussi de miracles plus largement demandés dans les sanctuaires. Et d'ailleurs, Rome ne s'y trompe pas, en faisant du miracle aussi bien le signe de l'efficacité tant de la sainteté qui est de nouveau recherchée systématiquement, que pour les pèlerinages anciens dont on demande un couronnement de la statue, il faut dire que le pèlerinage revit, et pour dire qu'il revit, que les miracles reviennent. Toutefois, l'attestation s'opère avant tout, selon le modèle tridentin, par l'intervention de l'évêque qui est juge des révélations privées. Une telle pratique, au XIXe siècle, avait été utilisée en 1826 par l'évêque de Poitiers pour reconnaître une apparition d'une grande croix qui était dans le ciel. Et cette croix et cette apparition, j'avais étudié ça dans ma jeunesse, cette apparition avait été d'autant plus pour l'évêque réel qu'il avait un physicien protestant qui avait dit « oui, je l'ai vu ». Alors là, c'était le must. Bon, je reviens à des choses plus sérieuses. Donc, on voit apparaître, ou plus exactement, on voit revenir ces pratiques, même si à la rue du Bac, elles ont été écartées. À partir de la Salette, l'attestation se fait par une enquête ecclésiastique qui réunit des témoins qui attestent la qualité de la voyante et surtout la véracité de ses propos, ce qui n'est pas d'ailleurs très facile. Cette pratique s'explique notamment par la nécessité immédiate de faire face à une opinion publique qui a catholique, qui est en face de l'opposition des incroyants, a besoin qu'on lui fournisse des éléments probants. Alors, si l'évêque le dit, c'est que c'est sans doute vrai. S'il y a une commission qui a été réunie, quoique sur les commissions, il y a des problèmes. Il en va ainsi, donc, tant à la Salette qu'à Lourdes et à Bonmain. Et cette légitimation se traduit de manière traditionnelle par la mise en place d'un nouveau pèlerinage par lequel s'opère justement le transfert du charisme du fondateur, de la personne de la voyante, au nouveau lieu, en quelque sorte, dans lequel la sacralité rechargée, selon les modalités d'Alphonse Dupron, se manifeste. Toutefois, le caractère attestataire, tant à la rue du Bac qu'à Lourdes, tient avant tout à la perspective théologique qui est mise en avant, mais de manière un peu surprenante. À Lourdes, on a vu fortement la vision s'identifier, quand Bernadette poussait elle-même par les prêtres, mais c'est qui cette dame ? La Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Or, le dogme qui exempte Marie comme mère de Jésus du péché originel vient d'être défini 4 ans plus tôt par Pie IX, et des fêtes ont célébré dans toute la France cette définition, ce qui fait qu'elle peut être connue quand même. Elle a pu entendre ce nom, même si elle ne sait pas ce que ça veut dire. Malgré la définition de désigner une personne par un privilège qui lui est reconnu, l'orthodoxie de la formule va légitimer aux yeux des autorités catholiques la véracité de l'apparition, d'autant plus que la Vierge reconnaît en quelque sorte elle-même, en se reconnaissant elle-même, comme l'Immaculée Conception, reconnaît le nouveau dogme. Donc c'est tout bénef, comme on dirait. Je reviens à mes propos. Il en fut de même, et soyons sages, il en fut de même pour la médaille miraculeuse, pardon, qui contient cette invocation au Marie conçu sans péché, qui est la teneur même de l'Immaculée Conception. Or, dans les deux décennies qui ont précédé la définition de l'Immaculée Conception, les évêques et les ordres religieux renaissants interviennent auprès du dicastère romain compétent pour demander l'insertion du nouveau titre, conçu sans péché ou immaculé, soit dans les litanies de la Vierge, soit dans le titre de la fête ancienne de la Conception de Marie, qui a lieu le 8 décembre, et dont on demandera qu'elle se rappellera la Conception Immaculée de Marie. Les lazaristes, donc, par leur intuition, s'inscrivent dans ce flux de demandes, et le succès de la médaille miraculeuse pèsera pour beaucoup dans la décision de Pie IX, qui jugera légitime de proclamer lui seul le dogme auquel les fidèles, par la prière, s'étaient par avance ralliés. Toutefois, dans le contexte de la poussée ultramontaine du second XIXe siècle, la papauté se doit aussi de réagir plus directement aux apparitions, même si leur reconnaissance est du ressort des évêques. Elle va le faire de deux manières qui ont chacune leur temporalité propre. La première consiste à reconnaître ces lieux nouveaux de pèlerinage en couronnant c'est leur nouvelle statue. C'est Lourdes qui est le premier sanctuaire ainsi reconnu en 1876, et il l'est avec un grand éclat, puisque le couronnement s'effectue par le nonce parisien, le nonce qui représente la papauté en France, qui consacre aussi la nouvelle chapelle. Seront plus tard couronnées avec moins de solennité la Salette en 1879, la rue du Bac en 1897 et Pontmain en 1934, la rapidité des couronnements témoignant en quelque sorte de la notoriété des apparitions. La seconde forme de reconnaissance romaine touche les visionnaires et elle est plus sélective. Il s'agit en effet d'ouvrir le procès de canonisation des deux voyantes qui décèdent presque en même temps, Catherine Labouré en 1876. C'est seulement à ce moment-là que le public sait son nom, que son nom est lié à l'apparition de 1830, et Bernadette Soubirous, qui décède en 1879. La notoriété de Lourdes, à laquelle la personne de Bernadette a été associée dès l'origine, fait ouvrir plus rapidement son procès. La voyante de Lourdes est béatifiée en 1925, à une date qui est très importante, mais sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir. C'est le moment où sont canonisées quatre figures françaises du XIXe siècle, au premier rang desquels Thérèse de l'Enfant Jésus et le curé d'Ars. Pie XI, par ce geste, renouait avec la France qui avait rompu avec le Concordat. Et comme il ne pouvait plus appeler la France la fille aînée de l'Église, puisque la fille aînée de l'Église, elle avait dit non, niette, à Rome, eh bien, on a trouvé un autre titre, car les papes aiment bien pour les pays avoir des titres, et on va l'appeler la Mère des Saints. Catherine Labouré sera béatifiée moins de 10 ans plus tard, manière aussi de reconnaître la plus grande congrégation féminine de la catholicité. La contestation, elle aussi, peut prendre des formes diverses, dans la mesure où elle porte soit sur le principe même de l'apparition, soit seulement sur certains de ses segments. Avant d'examiner les deux formes les plus visibles prises de la contestation, soit à la Salette, soit à Lourdes, je voudrais montrer que celle-ci peut provenir aussi, de manière paradoxale, sur les voyantes elles-mêmes, sont le fait des voyantes elles-mêmes, même si ce sont des contestations, on pourrait dire, à bas bruit. Par exemple, classiquement, Catherine Labouré va revoir Tan, on pourrait dire, son confesseur, en disant « La Vierge m'a dit que vous devez faire une reproduction et vous ne faites rien ». Chez Bernadette, la contestation se fait en 1964 quand on décide de représenter la Vierge dans le lieu de son apparition, dans la grotte, et on fait appel à un sculpteur lyonnais connu qui, assez classiquement, la représente avec la taille d'une statue qui est évidemment à la dimension de la grotte. Or, Bernadette, pour elle, c'était une jeune fille et c'était une petite jeune fille. Évidemment, ça ne correspond pas à la statue. Et elle proteste, mais enfin, ça n'ira pas loin. Je voudrais insister sur une autre forme de protestation, mais il faudrait y revenir et je n'ai pas tout à fait le temps. C'est que, aussi bien Catherine Labouré, au moins de manière, disons, ponctuelle, à chaque fois qu'on envisage une enquête canonique, elle dit « je ne sais pas, j'ai oublié ». Alors, est-ce que c'est une manière de se mettre à... Et fait plus troublant, la principale jeune fille qui dans l'apparition de Pontmain, était, je veux dire, une des plus actives à expliquer ce qu'elle voyait, 50 ans plus tard, quand il y a eu une enquête qui s'est faite, essayait d'expliquer « ben non, je ne faisais que répéter ce que les autres disaient ». On peut interpréter cette manière de rester ou de se tenir tout d'un coup à distance d'apparition sur un autre mode qui serait celui de... Le fait que l'apparition pèse tellement sur les voyants que, dans une volonté de revenir à une normalité, ils veulent être déchargés d'un poids trop lourd, correspondrait, toute proportion gardée, à des phénomènes, par exemple, comme le mutisme des poilus après l'enfer de Verdun ou des autres guerres. On prête aussi à Bernadette, à la fin de sa vie, de s'être interrogée sur la réalité de sa vision, au regard de tout ce qui, justement, s'était édifié sur sa seule parole. Est-ce que c'était bien vrai? Mais le problème est surtout celui de ce qu'on pourrait appeler la contestation interne et la contestation externe. Et je reprendrai pour finir ces deux analyses, soit l'une pour la Salette et l'autre pour Lourdes. qui se réunissent dans une sorte de phénomène assez surprenant, c'est que dans les années 90, les gens de lettres, comme on disait à ce moment-là, se mêlent de prendre parti, et même après, j'en dirai un mot. Le cas de la Salette est lié à l'existence de témoins récalcitrants, comme dit Boutry, qui sont en réalité des témoins inégalement fiables. Le premier, Maximin Giraud, qui sera plus tard zouave pontifical, rencontre en 1860 le curé d'Ars, sœur de Thaumaturge, qui lit dans les consciences, et après l'avoir entendu en confession, il soutiendra, presque jusqu'à sa mort, le curé d'Ars, que Maximilien lui avait dit ne rien avoir vu. Et Maximilien répondra, comme dans nos banlieues, le curé cherchait l'embrouille. Le cas de Mélanie Calva, témoin principal de la Salette, est différent. Après une tentative de vie religieuse dans le diocèse de Grenoble, elle retrouve sa liberté et progressivement, elle se prend pour la messagère du secret dont elle a reçu des positions, mais des positions pour le remettre en main propre et non pas pour le répandre à travers la terre, allant jusqu'à le faire connaître son contenu en 1879 et à trouver l'approbation d'un évêque italien du sud de l'Italie, il est vrai, pour la soutenir. Ce message contenait un acte violent d'accusation contre les prêtres qui, je cite, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Une mise en garde contre les nouvelles Sodomes que sont Paris et Marseille aussi quand même, et contre la papauté même qui perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, lui-même né, je le cite encore, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Or, la conjonction de ce secret à contenu apocalyptique et de la figure erratique de Mélanie, morte fidèle à ses dénonciations, frapperont les romanciers catholiques convertis que sont d'abord Huysmans et surtout Léon Blois. Ce dernier, à la fin de sa vie, en 1912, avait esquissé la figure de la voyante dans son introduction à, je cite, « La vie de Mélanie Bergère de la Salette » écrite par elle-même en 1900. À la fin de sa vie, elle avait fait une sorte de retour sur ses premières années de vision, dont le style de Blois, non pas celle de Mélanie, se retrouve dans ce bref extrait que je ne peux pas m'empêcher de citer, qu'on se représente une habitante du paradis forcée de vivre sur terre, une petite créature confisquée, séquestrée dans les gouffres de lumière, ayant reçu par infusion la théologie la plus sublime, en même temps qu'une injonction infinie de n'être rien. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que ces romanciers feront apprécier la Salette à des personnalités apparemment plus assagies de la génération suivante, comme le poète Paul Claudel, l'orientaliste Louis Massignon et le philosophe néo-thomiste Jacques Maritain. Ce dernier, en 1915, rédigea même un mémoire sur le secret de la Salette qui commençait ainsi « La Salette est le plus grand événement depuis la crucifixion ». Il envoya le texte à Rome qui interdit tout débat sur le secret et le texte de Maritain n'a jamais été publié jusqu'à ce jour. Quant à Massignon, il incorpora la figure de Mélanie dans une perspective enfiévrée d'un catholicisme total, dont il retrouvera un écho dans cette affirmation, elle, plus mesurée. Il est inouï de penser combien les chrétiens croyants ont perdu depuis les croisades le sens de la valeur eschatologique du pèlerinage. Ainsi donc, à l'assagissement de la Salette comme un pèlerinage normalisé, seulement d'accès un peu sportif, jusqu'à ce qu'on crée des routes goudronnées, s'oppose à vite une lecture contestataire, apocalyptique, portée par l'existence d'un secret auquel Mélanie prête son tragique destin et qu'amplifie durablement un catholicisme de converti. Tout autre est la contestation qui porte sur Lourdes, à laquelle sont attachés les noms de Charcot, le célèbre neurologue de la Salpêtrière, et surtout celui de Zola, par son livre Lourdes, 1894, qui atteignit le tirage exceptionnel de 300 000 exemplaires. C'est l'un des plus grands tirages de Zola. Son reportage sur Lourdes et ses miracles, car il a été se voir sur place, ce n'est pas une fiction, et sur les miracles qui se nourrit tout d'abord d'une enquête locale, y compris dans le bureau des constatations médicales qui a été créé en 1883, où des médecins peuvent voir les voyants, ou plutôt celles qui ont été guéries. Et ce bureau a été largement ouvert à Zola, peut-être à tort, un problème. Il se nourrit aussi d'une réflexion sur un texte tardif de Charcot qui s'appelle « La foi qui guérit », où celui-ci remettait partiellement en cause l'affirmation qui était la sienne durant qu'il était à la Salpêtrière, comme quoi l'hystérie, et donc des phénomènes comme les visions, est avant tout la manifestation d'une autosuggestion. Zola y ajoute de son cru une intrigue romanesque, la passion qui unit l'abbé Froment, qui est prêtre incroyant, ça existait, amoureux de Marie, infirme, qui vient à Lourdes et qui trouve évidemment la guérison. Le Lourdes de Zola peut être considéré comme l'apogée d'une contestation qui s'est déplacée du fait même du fonctionnement du pèlerinage, de la personne de la visionnaire à la gestion rationalisée du pèlerinage, conçue comme le lieu où le miracle tout à la fois se produit et se constate. La réponse au Lourdes de Zola fut le fait de Huysmans dans les foules de Lourdes en 1906, se convertit d'un artillerialisme qui était un élève de Zola, avoue certes avoir peu d'affinité avec cette Vierge glorieuse, toute moderne, qui s'est définie par elle-même par une abstraction, qui fait allusion à l'Immaculée Conception, et lui préférait la Salette, la Vierge pour les mystiques et pour les artistes, mais il entend au moins rendre aux foules de Lourdes l'hommage de la vérité de leur foi et aux miracles toute leur réalité complexe, tout en réglant dans le roman ses comptes avec Zola. Et ça, c'est une autre histoire. Il est vain de vouloir conclure. Retenons seulement de ces deux contestations ultimes deux évolutions singulières. Dans le cas de la Salette, la radicalisation d'un message initial qui lui-même s'inscrivait dans un courant, il est tombé du ciel déjà protestataire, et dans le second, la conséquence du déplacement rapidement opéré de la visionnaire, pourtant portée en quelque sorte à son apogée dans ce qu'elle représentait de ce que l'on pouvait montrer à d'autres de ce qu'une seule personne voyait, donc de ce transfert de la visionnaire au sanctuaire miraculeux. Deux formes différentes de contestation, la première en interne aboutit à la dénonciation des maux de l'Église, l'autre en externe à la mise en cause au nom de la science du miracle par lequel le surnaturel s'exprime présentement. La présence des convertis, qui sont aussi soit des hommes littéraires, soit des intellectuels ensuite, sur ces deux fronts, montre au moins que le phénomène apparitionnel fait maintenant partie intégrante d'un catholicisme total qu'ils entendent assumer et promouvoir. Merci.